Vous écoutez
RMC.
RMC.
Toujours 0-0 dans cette finale de la Ligue des Champions. Ça va être tiré de la droite vers la gauche.
J'ai toujours supporté l'afterfoot. J'ai toujours, c'est mon équipe du cœur.
J'ai l'impression que toute l'équipe est en train de se diléter, de se déliter.
Il y a aujourd'hui que Chelsea en Première Ligue qui peut être au même niveau qu'Arsenal en termes de physicalité. C'est physicality en anglais.
Oui, c'est ça,
non,
c'est
pas ça.
Ça.
Je croyais que ça passait, mais ça passe pas. Merci, mon Nico.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les quatre drôles de dames, Edgar Grollo, Paulo Breitner, Julien Laurence et Daniele Manoussia, 21h01. Vous écoutez RMC, l'after dans la foulée, comme tous les soirs, de 22h à minuit, bien sûr. Alors qu'à l'instant, un trophée UNFP, Désiré Doué a été élu meilleur espoir en Ligue 1. J'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'on le suit en Ligue 1, mais bon, c'est comme ça.
C'est bien ridicule, ça.
Ouais, c'est vraiment ridicule. Le plateau des nommés pour meilleur espoir, ils sont dominants en Ligue 1 depuis 3 saisons. Bref, Arsenal. Titre contesté jusqu'au bout. Est-ce que l'Angleterre n'a pas envie de voir Arsenal champion d'Angleterre? C'est la question que je te pose, mon cher Julien. Encore une fois, victoire à l'arraché, sûrement cruciale dans la course à la Première Ligue. Victoire 1-0 sur le terrain de West Ham, autre équipe londonienne. 5 points d'avance sur City qui compte un match en moins. Reste 2 matchs pour les Gunners, Burnley et Crystal Palace. Sauf que Julien, ce succès face à West Ham fait beaucoup beaucoup parler, et encore il y a quelques minutes, hein, avec notamment une démarche entamée par West Ham.
Ouais, c'est vrai qu'il y a cette décision à la dernière minute, quasiment la dernière seconde, on va dire. C'était pas exactement la dernière minute et dernière seconde, mais tout en fin de match, alors qu'Arsenal menait 1-0, un but de Trossard à la 83e minute, je crois, sur une frappe légèrement déviée, dans un match qui a été âpre, qui a été très tendu. On savait que City avait gagné la veille, le samedi, donc il fallait absolument qu'Arsenal l'emporte pour reprendre ses 5 points d'avance sur City avec son match de plus joué. Sinon, on aurait pu se retrouver encore une fois à égalité avec deux journées de championnat qui restaient derrière et un titre qui aurait pu jouer à la différence de but ou au nombre de buts marqués. Arsenal a fini par trouver la solution grâce, je pense, à un très bon coaching d'Arteta qui s'était trompé en première période après la blessure de Ben White, qui avait fait passer Declan Rice au poste d'arrière droit, là où il avait joué un petit peu par le passé, mais c'est vrai que ça avait un petit peu déséquilibré toute son équipe. Ils avaient perdu le contrôle au milieu de terrain. Zubimendi qui... T'as l'impression que le pauvre, il a pris 10 ans en 8 mois et qu'il a tellement couru plutôt dans la saison qu'il est un peu à bout complètement, et il a été ressorti ensuite en seconde période. Mais c'est vrai que les entrées en jeu d'Odegaard notamment, mais aussi celle de Mosquera, celle de Madueke également, le coaching a été payant de la part d'Arteta pour trouver la faille enfin. Et donc à 1-0, on se dit bon, c'est bon, ils ont fait le plus dur maintenant. Sauf que sur un dernier corner, il y a encore une fois un genre de cafouillage dans la surface où tout le monde se pousse, tout le monde tire le maillot, tout le monde se fait des plaquages de rugby. Au final, le but est marqué par Callum Wilson, qui égalise donc pour West Ham. West Ham qui joue sa survie en Première Ligue, faut pas l'oublier. Ils étaient 18e avant le début du match et avant le match de Tottenham ce soir contre Leeds. Donc West Ham, bien sûr, dans leur stade, le stade explose, etc. La VAR demande à l'arbitre de venir voir les images. Ça dure bien 5 bonnes minutes. L'arbitre regarde un petit peu tout ce qui s'est passé.
7 secondes de suspense, quoi, pour revoir
l'action. Voilà, exactement. Mais... avant qu'il décide d'annuler le but pour une faute qui existe, hein, la faute de Pablo sur Raya. Je pense que personne peut dire qu'il n'y a pas faute.
Ah,
il
oui.
a ses bras.
Bien sûr qu'elle existe.
Sur Raya. En revanche, c'est vrai qu'avant, il y a aussi une faute sur Pablo de Trossard, il y a une faute sur Mavropanos de Rice. Donc après, où est-ce que tu siffles? Quand est-ce que tu siffles? Quelle faute est la plus importante? La première, pas la première?
Oui,
ça devient très très compliqué.
Et il y a tous ces montages vidéo qu'on a vu sur les réseaux depuis cette décision arbitrale
de la saison
de Arsenal, qui a profité également sur coup de pied arrêté, de fautes non sifflées sur le gardien adverse. Alors, pour moi, il y a faute, hein, les gars. Il y a pas de débat. Je pense que la faute,
là,
elle est claire.
Là, il y a la main, ouais, quand même sur la main, et le bloc les bras, quoi.
Bien sûr, la faute, elle est évidente, quoi. Maintenant que ça prenne autant de temps, c'est toujours le même débat autour de la VAR, hein, que ça prenne quasiment 5 minutes pour décider ça.
Voilà, donc ce que les détracteurs ont dit, si ça prend autant de temps, c'est que l'arbitre ne peut pas décider. Et dans ce cas-là, garde ta décision pour en première. Donc si tu avais autorisé le but, garde le but.
Si tu avais annulé le but, en 30 secondes, tu as décidé, quoi. Voilà, c'est ça.
Exactement. Sinon, si ça met autant de temps, c'est que tu n'es même pas sûr qu'il y ait une faute ou qu'il n'y ait pas une faute. Donc je peux très bien comprendre la frustration de Bowen, qui a très bien parlé, j'ai trouvé, après le match, en expliquant, en disant voilà, nous on n'a rien contre Arsenal ou contre l'arbitre. c'est juste que on a été nous cette saison, et d'ailleurs le match contre Tottenham par exemple, où ils ont été, ça a été contre eux là, le même genre de décision, alors que là ça va dans le sens d'Arsenal. Il dit moi je comprends pas trop, dans ce cas-là il y a des fautes tout le temps, alors soit tu laisses tout jouer, soit tu siffles tout, mais depuis le début de la saison il y a pas non plus de, on n'est pas constant dans ce que les arbitres peuvent faire sur ce genre d'incident-là. Après, pour moi, la Première Ligue a trop laissé ce genre de situation arriver cette saison, où on a des corners ou des coups de pied arrêtés excentrés, où dans la surface c'est du catch quoi. C'est sincèrement, c'est ridicule en fait. On en est arrivé à un point où
comment l'éviter ça, Julien ? Comment l'éviter en fait ? Siffler à chaque fois qu'il y a un contact maintenant, ça va hacher le match, ça va durer des plombes. Ça va être insupportable.
Ouais, je sais
quoi.
Pas. Alors hier, par exemple, il y avait un ancien arbitre sur la BBC à Match of the Day qui disait, ben dans ce cas-là, les joueurs qui attaquent, donc dont c'est le corner ou le coup de pied excentré, ne peuvent pas rentrer dans les 6 mètres. Les 6 mètres, c'est que pour le gardien et ses défenseurs, ou en tout cas ses joueurs à lui. Donc là, après, tu rentres dans des trucs où t'as une règle pour la Première Ligue qui est pas la même en Europe.
Pas le faire.
Qu'est-ce qui se passe quand les joueurs anglais, les clubs anglais vont jouer en Coupe d'Europe ?
C'est ça, exactement.
Moi, je pense que par exemple, si tu veux vraiment éradiquer ce problème. C'est très simple. Pour moi, la saison prochaine, dès qu'il y a un petit peu de contact de l'équipe qui attaque, donc dont l'équipe qui a les corners et les coups de pied excentrés ou les coups de pied arrêtés, dès qu'il y a une faute sur un début de faute sur un joueur qui te défend, donc le gardien ou le défenseur adverse, tu siffles en faveur de l'équipe qui défend le coup de pied arrêté. Comme ça, maintenant, les équipes qui auront les corners, c'est en leur faveur. Ils pourront plus se permettre de faire ce genre de faute-là, parce que dès qu'il y aura une petite faute comme ça, elle sera sifflée contre eux. Donc, ils devront être réglo dans la surface. Donc, il y aura pas, tu veux pas accrocher le bras du gardien, le maillot du gardien, un défenseur, quoi que ce soit. Toi, dans ta phase offensive de coup de pied arrêté, tu devras être irréprochable, sinon ce sera sifflé contre toi. Après, aux défenseurs de eux bien défendre. Et s'il y a faute d'un défenseur, là c'est pénalty ou c'est coup franc indirect ou ce que tu veux. Mais à un moment, il faut faire quelque chose. Ça peut pas continuer comme ça. Parce qu'en plus, déjà, ça t'amène des problèmes, comme celui d'hier entre West Ham et Arsenal. Et surtout, on passe pour des clowns auprès du reste de l'Europe. Parce que sincèrement, quand tu vois nos matchs et nos coups de pied arrêtés, c'est ridicule.
C'est pugilat, quoi. Daniel, tu voulais.
C'est honteux, franchement.
C'est que, en Italie, on a beaucoup parlé de ça. Pas de cette action-là, mais en général, dans l'année, parce qu'il y a eu beaucoup de buts, de situations. Un peu limite, mais en fait je pense que c'est pas une question des règles, parce que les règles sont déjà là, mais d'interprétation. En Italie, on interprète que on peut pas toucher au gardien, c'est-à-dire les restes des choses, c'est limite, c'est gris, il y a peut-être pénalty, pas de faute de l'attaquant, mais les gardiens, tu peux pas le toucher, tu peux même pas faire un bloc sur les gardiens. Si tu te mets devant les gardiens, tu lui empêches de sortir. En Italie, c'est faute, toujours.
D'accord. Bon, écoute, c'est faute. Je regarde également en direct Napoli qui joue ce soir, qui est mené 1-0 sur son terrain par Bologne.
Très joli but de Bernardeschi. C'est vrai qu'en Italie, on n'a pas beaucoup de champions.
Mais là, t'as un suspense. Parce que si le Napoli perd ce soir, on aura 1, 2, 3, 4, 5 équipes en 5 points à 2 journées de la fin. Ce serait merveilleux.
Oui, en plus, on ressuscite des morts, quoi. C'est un championnat des vampires, quoi. Bernardeschi, il était fini et là, il a marqué un but incroyable. Allez regarder.
Ouais, je l'ai pas vu.
C'est assez joli.
Je regarderai. Tiens, Julien, évidemment, nous, on regarde Arsenal en pensant au 30 mai, à la finale de Ligue des Champions, bien sûr, à Budapest, Arsenal, Paris, Saint-Germain. Deux mauvaises nouvelles pour Arsenal. Blessure de Ben White, sorti blessé à la 28e minute. Ouais. Et Calafiori. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à maintenant 3 semaines de la finale de Ligue des Champions, là?
Ouais, alors Calafiori, c'est un choix tactique, donc ça n'a rien à voir. En tout cas, ce qu'on
problème
a dit
physique,
hier, ça n'avait rien
non,
à voir.
C'est pas ça ? Ah non, d'accord, je crois que c'était.
Alors moi, c'est pas ce qu'on m'avait dit, mais peut-être qu'effectivement, il y a eu un problème physique. C'était plus un choix tactique, visiblement, mais peut-être qu'il y a un problème physique. Il a été un petit peu, il avait très bien commencé Calafiori, et puis c'est vrai que depuis le début de l'année 2026, c'est un peu plus compliqué dans les blessures, les rechutes, les blessures, etc. Il y a Incapié qui est là, ou voir Lewis Kelly qui a joué en seconde période à ce poste-là aussi. Donc là, il y a de la couverture. À droite, en revanche, si White était blessé, ça semblait être le genou, et ce serait malheureusement pour lui, ça semblerait être assez conséquent. Si Timber ne revient pas à temps pour la finale de la Ligue des Champions, et ils sont assez optimistes qu'il pourrait revenir à temps, sinon c'est Mosquera qui est un défenseur central, mais qui peut très bien jouer arrière droit aussi, qui était très bon à Valence, qui a un gros potentiel, qui est un jeune joueur, mais qui est, à mon avis, un joli coup du mercato de la part de Bertha et d'Arsenal l'été dernier. Mais c'est vrai que White apporte quelque chose de différent, notamment dans sa relation avec Saka sur le côté droit, que Mosquera n'a pas, mais et une expérience que Mosquera n'a pas non plus. Donc oui, ce sera un gros coup dur si Arsenal était sans Timber ni White pour la finale de la Ligue des Champions. Surtout, je pense que pour le prochain match championnat contre Burnley lundi prochain, ça devrait le faire. Et puis après, on verra où ils en sont en termes de championnat, de course au titre. Mais pour la Ligue des Champions, il faudrait, oui, que Timber soit là de retour.
Bon, voilà, on va suivre ça bien sûr. Vous écoutez RMC, il est 21h10. Ce sont les drôles de dames. Edgar, le Real Madrid, énorme Oula. Chantier. Printanier, énorme chantier estival. Qui va partir? Qui doit partir? Qui doit venir également? Là, on part sur 3 mois de spéculation, mais également d'informations sur le mercato prochain, sur la direction également. Il y a une colère immense, ça y est, hein, c'est acté. Deuxième saison blanche pour le Real Madrid. Ça arrive extrêmement rarement dans l'histoire de ce club. Par où doit commencer, selon toi, le ménage du Real Madrid, mon cher Edgar?
Pour moi, la priorité absolue, à l'instant T et dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est de remettre l'autorité et l'intérêt du club au centre de tout. Mais de tout. Donc, parce que en fait, il faut faire en sorte
ça veut
que
dire
tout
quoi,
le monde.
Complètement ça.
Mais il faut faire en sorte une nouvelle fois que tout le monde ait le même intérêt, le même objectif, c'est-à-dire celui du club. Parce que aujourd'hui, quand tu regardes tous les problèmes qu'il y a eu cette saison, tu peux tous les ramener un petit peu à la même chose. Pourquoi tu as des joueurs qui essayent de faire virer un coach? Parce que ils mettent leur intérêt personnel devant celui de l'équipe, parce que un tel estime qu'il sort trop pendant les matchs et l'autre n'aime pas jouer latéral droit, donc ils mettent leur intérêt avant. Pourquoi t'as autant de fuites dans le vestiaire? Parce que tous et tous leurs entourages veulent mettre en avant tel intérêt plutôt que l'intérêt de l'équipe de manière générale. Pourquoi t'as des communications qui sont catastrophiques? Par exemple, des joueurs, je suis désolé, mais des joueurs qui gagnent un match pourri sur la pelouse de l'Espagnol de Barcelone et qui viennent fanfaronner sur les réseaux sociaux comme si c'était incroyable. Ça, c'est parce qu'ils veulent montrer, regardez, c'est bon, j'ai été performant, mais on s'en fiche que t'aies été performant, étant donné que l'équipe est largement menée et surclassée en Liga, donc cette victoire n'apporte rien. Pareil pour les fautes de communication de Kylian Mbappé. En fait, tout ça, ça revient à la même chose. C'est, il faut placer l'équipe et le club au centre de tout
c'est
ça.
C'est la faute de qui, si on en est là aujourd'hui? C'est Florentino.
C'est la faute de la direction. Première
autorité.
Donc il y a un manque d'autorité de la direction. Ça, il faut la ramener tout de suite.
Ce qu'on dit, c'est des passes droits à certains qu'il accorde et aucun à d'autres, Florentino Pérez, quoi. La politique de la star absolue, ouais, quoi.
Il faut remettre
ça. Comme ça,
l'autorité. Pourtant, non, mais, il a toujours fait ça, mais ça tenait, quoi, sur un entraîneur aussi.
Il faut remettre l'autorité dans la direction et évidemment que le comportement des joueurs et de manière générale, celui qui va incarner l'autorité du club au quotidien, c'est l'entraîneur. Donc, je pense que l'entraîneur, dans quasiment, je pense que sans entraîneur, tu peux avoir des mauvais joueurs. Si t'as quelques mauvais joueurs, ça passe. Si t'as un mauvais entraîneur, ça passe pas. Donc, Arbeloa, je dis pas que ce serait un mauvais entraîneur toute sa carrière, mais là, il était pas prêt. C'est pas possible. T'aurais jamais pu avoir des résultats avec cet entraîneur-là. Aujourd'hui, il faut choisir le bon entraîneur qui va faire le ménage, qui va dire les bonnes choses aux joueurs et il faut, après, donc priorité numéro 1, la direction, rétablir l'autorité. Priorité numéro 2, choisir le bon coach qui va rétablir de l'autorité tous les jours, au quotidien, et surtout de l'exigence, c'est surtout ça, de l'exigence chez les joueurs. Et la dernière priorité, mais elle n'est pas forcément moins importante, c'est de faire le tri. Et il y a des joueurs aujourd'hui qui ne doivent plus rejouer pour le Real Madrid. Et j'aurais jamais cru dire ça en début de saison. Mais aujourd'hui,
tu penses à qui ?
Un joueur comme Federico Valverde doit partir.
Waouh.
Federico Valverde, aujourd'hui, t'es vice-capitaine du club, t'as le brassard et t'es mêlé dans des histoires comme ça avec d'autres cadres du vestiaire, t'es mêlé dans des prises de bec, dans des tensions, t'as voulu faire virer ton premier coach. Valverde, très bien, il a fait une carrière incroyable au Real Madrid, il a même cette saison fait de belles choses, mais
c'est un mec qui a beaucoup donné pour le Real quand même, c'est tu vois, là t'es en train de déboulonner une statuette du Real.
C'est un mec qui a énormément donné pour le Real et cette saison-là n'enlève pas tout ce qu'il a fait par le passé, mais il faut passer un message que ce genre de comportement, essayer de chercher des contacts avec ton coéquipier à l'entraînement parce que t'es pas content contre lui, c'est pas possible dans un club comme le Real Madrid et dans n'importe quel club. Et vouloir virer ton coach, c'est pas possible. Râler et laisser fuiter des choses comme quoi t'es pas content de ton poste, c'est pas possible. Ça fait énormément de choses. Et aujourd'hui, Valverde, en tant que leader, il fait pas l'unanimité au sein du groupe et la direction doit faire passer le message que ce genre de comportement-là n'est plus possible.
Alors, c'est ton avis ou c'est un avis partagé quand même par les socios du Real, ça?
Je pense qu'aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a de la colère contre Valverde après ce qui s'est passé notamment et quelques épisodes dans la saison? J'ai l'impression que Tchouaméni est absous de tout, en fait, lui, en revanche.
Bah, Aurélien Tchouaméni,
c'est un premier écart, certes. Ouais,
Aurélien Tchouaméni, son attitude, elle a toujours été nickel cette saison. Et effectivement, il a évidemment sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé et dans cette altercation-là. Mais très honnêtement, et vous pouvez reprendre tous les récits qui ont été faits dans toute la presse espagnole, Valverde a une énorme part de responsabilité. Et surtout, je le répète, c'est l'un des capitaines du Real Madrid. C'est celui qui a le plus porté le brassard cette saison. Comment tu veux avoir un capitaine qui veut virer un coach et qui a des altercations avec des coéquipiers? C'est pas possible. Et c'est injuste pour lui, quelque part, que son nom soit l'un des premiers à revenir sur la table, parce que t'as d'autres joueurs qui ont eu beaucoup plus de problèmes de comportement sur plusieurs années, parce que t'as d'autres joueurs aujourd'hui qui sont peut-être plus responsables sur la saison en termes de niveau, qui sont moins bons, qui sont moins performants.
C'est ça, ouais.
Mais sortir Valverde, c'est un message que tu passes, et tous les autres, ils vont se dire, ah ouais, ok. Même si Valverde peut être viré, alors moi, évidemment que je peux être viré, parce que Valverde, c'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid sur les dernières saisons, et
même s'il y a une inconstance cette saison, effectivement, parce qu'il n'était pas d'accord avec ses deux coachs, en l'occurrence surtout Xabi Alonso, dans son utilisation, même s'il disait en conf, je suis prêt à jouer latéral droit, c'est pas un problème, je peux le faire aussi. Il a toujours été nickel dans sa déclaration, Valverde. Après, en coulisses, c'est très différent. Alors évidemment, on va dire qu'on en parle quasiment tous les lundis soirs, mais là, ce que je vois sur les réseaux concernant Kylian Mbappé, nous on a du mal à décrypter ça, en fait, hein, depuis la France. On sait qu'il y a une sorte d'obsession Mbappé en France à distance. Elle existait déjà quand il était au PSG, sa fin de carrière à Paris. Est-ce que c'est la même désormais à Madrid aussi? Est-ce qu'il y a une sorte de phénomène populaire, parfois populiste, anti-Mbappé, qui réclame des sanctions, un départ? Mbappé ne peut plus porter le maillot du Real Madrid après ses tweets, après ses posts Insta, notamment le dernier, le 2, qui poste à 2-0 à la Madrid alors que le Real est mené 2-0. Celui d'aujourd'hui en salle de musculation. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse aujourd'hui, cet homme-là est devenu l'ennemi public numéro 1. Est-ce que c'est une réalité en Espagne?
Oui, j'ai passé un an et demi, c'est-à-dire du moment où je suis arrivé en Espagne jusqu'à très récemment, à dire que la réalité et l'image de Kylian Mbappé était très différente en Espagne et en France. Mais aujourd'hui, je suis obligé de constater que les critiques qu'il avait en France, il les a en Espagne. Les campagnes,
c'est-à-dire sur le jeu, sur les efforts,
sur le jeu,
sur la communication aussi,
sur la communication, sur l'attitude, surtout. Surtout sur le quotidien dans le vestiaire. Malheureusement, aujourd'hui, les critiques, elles sont partout. Les campagnes médiatiques, les campagnes sur les réseaux sociaux, tout est très similaire, finalement.
Tu as du mal à faire la différence entre le vrai et le faux. Cet homme-là est scruté en permanence. Écrit dans les médias espagnols ou sur les réseaux, bien sûr. C'est parfois aussi à prendre avec des pincettes. Mm-hmm. On raconte des choses. Dès qu'il fait quelque chose dans le vestiaire, c'est interprété. Quand il sort du terrain, c'est parce qu'il veut... Ou quand il quitte l'entraînement samedi, c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas titulaire contre le Barça. Quel est le vrai du faux là-dedans? C'est très compliqué de trouver la frontière.
Je pense que même lui est perdu dans les critiques qui comptent et les critiques qui ne comptent pas. Et je pense, ma théorie, c'est que le joueur est rentré dans un mindset où il se dit, en fait, quoi que je fasse, je vais être critiqué. Les gens me reprochent tout et n'importe quoi et très souvent des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et donc lui maintenant, et j'imagine à quel point ça doit être compliqué. Je pense qu'il a une déconnexion par rapport à la réalité et par rapport aux critiques. Et je pense qu'il a une certaine difficulté à dissocier les critiques qui sont justifiées et les critiques qui ne le sont pas. Et c'est pour ça que il va faire des coups de communication qui sont complètement ratés, parce que après, quand on va lui dire mais c'est pas intelligent de mettre une story à 2-0 quand ton équipe perd, ou c'est pas intelligent de faire une panenka face à Brahim Diaz, je pense que dans sa tête c'est très difficile pour lui de dissocier les critiques qui sont justifiées, les critiques qui sont pas justifiées, parce que ça devient un truc de se dire mais en fait quoi qu'il arrive je vais être critiqué, donc tout ça n'a aucune valeur. Mais la réalité, c'est que en étant autant dissocié de la réalité, autant loin de la réalité, je vais citer Luis Enrique, peut-être son ancien entraîneur. C'est catastrophique. La communication de Kylian Mbappé, elle est devenue catastrophique.
Ce qui est dingue, c'est qu'on se dit, mais il doit être conseillé, ce garçon. J'ai l'impression qu'il prend son téléphone comme n'importe quel kidam, et qu'il décide de poster sur Instagram. Bon, bref, bien sûr, c'est un sujet. Vous en pensez quoi, les amis, vous? C'est quoi? Je vous sens souvent là-dessus également lundi soir. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Daniele, également. Ton regard là-dessus sur la communication de Kylian Mbappé, le joueur, les efforts défensifs, on en a beaucoup parlé. C'est pas le premier. En revanche, sur la communication, est-ce que toi t'as été un peu surpris par sa façon d'exister sur les réseaux, quoi?
Bah oui, moi je regarderai un peu les résultats. Il est pas en étant un des meilleurs footballeurs au monde. un des meilleurs footballeurs en France. Moi, je trouve que il a pas beaucoup de succès médiatiquement. C'est-à-dire, il est pas très aimé, il est pas attachant, il est pas.
T'as raison, c'est le plus grand écart de l'histoire du foot, peut-être entre l'efficacité sur le terrain, offensive en tout cas, et l'image et la popularité.
Ah, mais je pense aussi que dans sa popularité, il y a quelque chose qui a changé. C'est que pourquoi on a tous adoré regarder Kylian Mbappé sur les premières années de sa carrière, c'est parce que il était fabuleux à voir jouer et t'avais envie de. Dès qu'il touchait le ballon, tu disais qu'est-ce qu'il va faire. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il marque énormément. C'est souvent très bon à voir, mais pas tout le temps. Mais de manière générale, c'est quand même moins spectaculaire, moins emballant. Et aujourd'hui, t'allumes beaucoup moins ta télé pour regarder Kylian Mbappé jouer. Et ça, c'est une réalité. Alors que au début de sa carrière, mais c'était un régal de regarder Kylian Mbappé jouer. Alors évidemment, le jeu peut évoluer, comme il a évolué dans la carrière de Cristiano Ronaldo et d'autres joueurs. Mais je pense aussi que, ne serait-ce que son style de jeu, est un petit peu moins attachant aujourd'hui.
Bon. Voilà, Polo, je ne sais pas ce que tu en penses, hein. C'est un personnage qui ne t'intéresse pas, Kylian Mbappé.
Ah, c'est pas Kylian Mbappé qui ne m'intéresse pas, c'est ce qui est devenu la communication des joueurs qui ne m'intéresse pas. C'est un non-événement pour moi.
Et Julien, pareil, tu en as parlé longuement déjà, Kylian Mbappé, le poste facile ou à côté de la plaque. Ouais, Daniele.
Non, mais tu sais, aujourd'hui, j'en ai parlé avec un fighter des MMA, parce que si dans l'MMA, il y a l'histoire de...
Tu parles
d'un
fighter des MMA, toi, d'accord, Daniele, c'est intéressant.
Oui, oui,
ben, avant ou après avoir mangé du fenouil?
J'écris un livre, même. Mais on parlait du fait, voilà, les trash talking, le fait de devoir être toujours sur les réseaux. Et lui, il est un peu à ancienne manière. Il dit qu'il n'aime pas ça. Ça a même ruiné le sport. Mais il faut dire aussi, c'est des choses assez nouvelles dans l'histoire du monde, dans l'histoire du sport. 2007, ça n'existait pas. Il y a des champions très aimés 2007. Ça, c'est les premières générations qui doivent gérer ça. Ça doit pas être facile. Et pour Mbappé, il y a les réseaux où il est très populaire. Il y a son pouvoir politique, on va dire. C'est-à-dire, mettez-vous dans la peau d'un gars qui voulait quitter son équipe de cœur et il y a les présidents de la République qui allaient le voir. Non, mais ça doit changer ta mentalité, ça doit changer ton caractère.
Mais donc c'est comme ça que tu deviens déconnecté aussi. Hein. C'est très, très compliqué si on se met à sa place de rester.
Et après, ils sont protégés. Après, ils sont toujours protégés. Ils sont toujours effacés.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire.
C'est la première fois, pardon.
Les joueurs, non mais c'est les moyens, mais ce que font c'est la forme qui a changé, le fond n'a jamais changé. Les joueurs de football ont toujours utilisé, par exemple, dans les années 70-80, les médias pour faire leur propre image. Ils envoyaient des infos. Là, moi, je suis pas d'accord. Là, si on dit que Valverde doit être viré, H24, ça c'est la débilité de la société actuelle. Je veux dire, si les mecs veulent aller sur TikTok, c'est leur problème. C'est faut aussi être. Je veux dire, faut voir à quel public.
Non, c'est pas obligé d'annuler. Personne n'est obligé d'annuler sur TikTok et sur Twitch.
Ils vont perdre des possibilités. Ils vont perdre de l'argent.
Non.
Les gens autour d'eux.
Il a des contrats avec Olysée, moi j'adore Olysée, mais
sur les réseaux par exemple.
Il est un peu particulier.
T'es pas forcé de faire ce que fait tout le monde, toute la crétinerie actuelle, pour exister. T'es pas forcé d'avoir une communication qui est à direction de gamins qui ont 10 ans et qui comprennent rien à la vie. C'est ça, c'est ce que devenu le Real Madrid au passage.
Bien sûr.
Donc, faut pas s'étonner derrière. Mais moi là où je suis pas d'accord avec toi, c'est juste la forme qui a changé, mais le fond. Les journalistes, les joueurs ont toujours utilisé les médias, notamment pour leur propre image, pour balancer tel truc. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Edgar tout à l'heure sur c'est le capitaine, il a pas le droit d'être coin d'un coach. Mais combien de capitaines au Bayern ont fait virer les coachs? Thomas Müller en premier.
Quand tu fais le bilan de sa saison.
Mais c'est pas ça. La question, est-ce qu'un capitaine peut faire virer un coach? Mais c'est l'histoire du football. On peut pas, c'est de la.
Moi j'ai entendu ce que tu m'as dit, c'est de la moraline.
C'est-à-dire, c'est pas ça l'histoire du foot.
Non, mais
l'histoire du foot, c'est les coachs. Comportement qu'il y a eu cette saison, parce que c'est l'histoire du foot.
La question, c'est le capitaine a-t-il un devoir d'exemplarité dans cette saison également? Il peut effectivement utiliser son pouvoir pour faire virer un coach. C'est arrivé, l'histoire regorge d'exemples.
Demande à Ancelotti.
Moi, je l'ai vécu à Nantes avec Mickaël Landreau qui avait viré Loïc Abis tout seul, quasiment. Voilà, ça arrive. C'est aussi parfois la responsabilité des capitaines.
Mais la raison, pour terminer sur Valverde, pourquoi je le pointe lui aussi du doigt et pourquoi je dis que lui, ça peut être l'un des premiers noms à partir, ou en tout cas que moi je ferais partir, c'est aussi, il faut être 100% honnête, parce qu'il est beaucoup plus facile à vendre que d'autres. Et que Valverde aujourd'hui, je suis sûr qu'il aurait énormément de prétendants. Il a une belle valeur marchande, mais il est quand même plus simple à céder qu'un Bellingham ou qu'un Vinicius. Et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il mérite nécessairement de partir. Ça dépend comment on voit la chose. En tout cas, va falloir faire des choix au niveau de la direction. Mais Valverde, il y a aucune raison de penser que demain tu pourrais pas le vendre et te faire une vraie plus-value sur lui.
Bon, voilà pour le Real, les amis. C'est un troisième minute musicale de la soirée. Si elle est allemande. On envoie la musique, Polo. Fait du bien.
Volke Chapete, si je prononce, si je prononce correctement. Daniele, évidemment, les noces de Figaro, vous qui savez. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? C'est que Leipzig a validé sa troisième place cette saison et donc est de retour en Ligue des Champions et à nouveau est ressorti le débat. Qu'est-ce que c'est que le club de Leipzig en Allemagne? Est-ce que c'est un club qui est détesté, où il y a de la haine qui est autour de lui, ou c'est une formidable usine à talents? Et donc en fait, ce qui sort en Allemagne après cette troisième place qui était nécessaire, parce que rappelons qu'ils n'étaient pas en Europe cette année, est-ce que Oliver Werner avait la carte pour aller chercher une place en Ligue des Champions, c'est qu'en fait on se rend compte qu'au-delà de ça, l'image du RB Leipzig, au-delà de tout ce que disent certains scientifiques ou sociologues qui travaillent sur l'image des clubs allemands, etc., dans la société allemande, eh ben tu as toujours une forme de barrière. Mais moi, cette barrière, elle m'intéresse parce qu'on dit oui, c'est un club qui a été construit à coups de millions, c'est un club étranger aussi, hein, d'ailleurs, c'est parce que c'est évidemment la galaxie Red Bull, donc autrichien. Et ce qui est intéressant, c'est toujours de dire mais qui est contre le RB Leipzig? C'est-à-dire que quand je vous parle de ce qui s'est passé dans les années 2010, cette fameuse révolution du foot allemand qui était nécessaire, la galaxie Red Bull en a fait partie. C'est-à-dire que si aujourd'hui le football allemand est rayonnant financièrement, se fait un championnat où il y a des buts tout le temps, etc., c'est parce qu'ils ont utilisé cette voie. Et ceux qui sont toujours contre, c'est qui est-ce qu'on interroge, par exemple, sur l'image du RB Leipzig? On interroge les ultras en général. Donc les ultras, moi j'aime bien regarder ce qu'ils proposent pour améliorer le football, c'est toujours intéressant parce qu'ils ont à peu près 25 ans de retard sur toutes les analyses, c'est-à-dire ils sont encore au niveau de dire il faudrait qu'on ait une répartition égalitaire des droits télé nationaux en Bundesliga. Ça va vachement faire bouger l'oreille du Bayern Munich qui ses droits nationaux c'est 8%. Donc ça ne change strictement rien à l'ensemble de son chiffre d'affaires, Ça ne change strictement rien à ce genre avec ce genre de proposition, et de voir pourquoi est-ce qu'on n'aime pas le RB Leipzig, ou supposé, puisque s'il n'est pas un club aimé en Allemagne, c'est un club qui a acquis une forme de respect par rapport qu'il propose. Mmh. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que pendant des années, le football est-allemand n'était plus sur la carte de l'Europe. Jusqu'à preuve de contraire, Leipzig, c'est pas du côté de Stuttgart, c'est encore à l'est de l'Allemagne. Et la troisième chose qui me semble très importante, c'est que la seule chose qu'on peut critiquer à Red Bull, c'est est-ce que vous voulez aller chercher le Bayern et toujours investir, toujours plus. Donc moi qui m'intéresse dans cette histoire.
Mais on n'a pas la réponse. Pas la réponse sur là pour l'instant, mon cher Polo. C'est pas l'idée.
Mais
quoi.
Par contre, ce que tout le monde dit, c'est qu'à l'époque où il y avait le Lokomotiv Leipzig qui jouait au Central Stadion et tout ça, il y avait 20 000 spectateurs de moyenne en Allemagne. Il y en a plus de 40 000 aujourd'hui à Leipzig. Donc moi, je veux bien qu'on critique systématiquement Leipzig sur ce qu'ils proposent, pourquoi, ou leur modèle, qui au passage, on pourrait critiquer dans ces conditions Leverkusen, Hoffenheim, etc. Donc voilà. Parce que j'ai adoré le fait que ce débat revienne systématiquement dès que Leipzig a validé son retour en Ligue des Champions.
Bon, on nous dit sur le chat, est-ce que Polo va parler de Schalke qui remonte? Tu l'as déjà fait, je pense, mon cher Polo.
La semaine dernière.
Tu l'as fait lundi dernier, exactement. Schalke 04 qui remonte au Bundesliga. Ceux qui ont pas vu les images de la montée, c'était magnifique, hein, ce stade qui s'embrase, bien sûr. Énorme club allemand de retour en Bundesliga. Pour écouter le podcast de la semaine dernière, d'ailleurs. Il est toujours disponible, les drôles de dames. Dans un instant, la suite avec Polo, Julien, Edgar, bien sûr, et Daniele. On va parler de Daniel Malen, qui a réveillé la Roma à laquelle Daniele ne croyait plus. On va s'expliquer, mon cher Daniele, dans un instant, bien sûr. Et puis bien d'autres sujets à évoquer avec les drôles de dames sur RMC, 21h30, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Polo Breitner, Julien Laurent, Edgar Grelot et Daniele Manoussia, on est ensemble jusqu'à 22h. Alors, Daniele, dis-moi un peu là. Ça fait trois semaines que je te dis pourquoi pas la Ligue des Champions pour la Roma. Que tu me réponds, impossible. La Roma est cinquième aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, avec 67 points. Comme la Juve, quatrième. Tout devient possible, d'autant plus si Naples perd ce soir contre Bologne. La Juve, la Roma peut même terminer, allez, imaginons deuxième de Serie A cette saison, ce qui serait fou. Ce qui serait complètement fou, ça te fait rire, mais pourquoi pas. Je t'attends au tournant, bien sûr.
Non, mais je te rappelle que la semaine prochaine, la Roma, elle joue contre la Lazio en derby.
Et alors? Et alors?
Ça va pas être simple. Il faut passer par là. Il faut passer par la crune de. Non, je sais pas. Je me lançais dans une métaphore biblique, mais je sais pas la traduire. Mais non, c'est très difficile. Mais, il faut dire une chose. La Roma, elle a peut-être pris une grosse décision, la décision difficile qu'on prend normalement à la fin de la saison. Elle a pris au bon moment. C'est-à-dire quand elle a, en gros, viré Ranieri, ils ont donné tout le pouvoir à Gasperini, et ça c'est un peu souder l'équipe, c'est un peu resserrer les rangs. Bon, après il y a eu le retour aussi de Manu Koné, qui ça change le jour et la nuit pour la Roma, et donc là ils ont gagné quelques matchs intéressants. Là Parme, les matchs contre Parme, c'était fou. Ils ont marqué à la 96e minute et à la 101e minute. En plus, la Roma, c'est pas une équipe qui marque souvent dans les prolongations. Elle perd de 2-1 et elle a gagné 3-2. Avec un penalty, bien sûr, avec des choses, toujours, il y a toujours des disputes dans ces moments-là en Italie. Et il y a eu deux buts incroyables de Malen. Les premières, très, très jolies. Franchement, ça m'a rappelé Benzema. Vous vous rappelez Benzema, le but qu'il fait quand on lui passe la balle un peu derrière son dos, il fait un contrôle avec les talons.
Oui, bien sûr. Il se la met.
Voilà. Ben, Malen, il fait un contrôle un peu similaire, plus simple, mais à une rapidité, une vitesse. Et après, très froid devant le but. Après, il n'est pas toujours froid. Il a eu deux autres occasions qu'il a ratées. Mais après, il a eu ses pénalties très difficiles. Et il a été très froid, encore une fois, très précis.
T'as raison. Vas-y.
Il a fait 13 buts en 16 matchs. Hein.
C'est dingue. Je rappelle. Il est arrivé cet hiver, prêté, avec option d'achat obligatoire. Il y a pas mal de conditions.
25 millions.
Aston Villa, 25 millions d'euros. 16 matchs, 13 buts, 2 passes décisives. Hein. Bon, 13 buts, c'est deuxième meilleur buteur de Serie A, évidemment. Je vais pas en rajouter tout le temps. Voilà. Deuxième meilleur buteur de Serie A en étant arrivé en janvier. Daniel Malen. J'ai vu la presse italienne dit aucun attaquant recruté par la Roma n'avait réussi un tel départ depuis Gabriele Battista. Tout à. Voilà, tout simplement. Quoi. Bon, on va doucement sur les comparaisons, on va voir ça. Mais c'est phénoménal, non, mais c'est en tout cas.
C'est la meilleure équipe.
S'il avait démarré avec nous au début de saison, on n'en serait pas là, on aurait beaucoup plus de points.
Oui, ça, c'est qu'on pense, parce que voilà, mais avec les peut-être, les je sais pas, mais il est. Je sais pas si on dit ça en français, en italien, on dit avec les C.
Avec les C, en Coupe du Bois. Voilà.
C'était plus simple. Mais bon, c'est la meilleure recrue de l'histoire du championnat. Après, en termes de buts marqués. Après Balotelli en 2013 avec Milan quand il venait juste de Manchester City. Mais là, il a dépassé parce que c'était 12 buts Balotelli. Et lui, il est déjà 13. Mais oui, il est incroyable. Le mec, il est 5 coups. Il a un regard froid, vide. On dirait qu'il sort d'une boîte comme un énorme jouet pour enfant, quoi. Il a pas une vie, peut-être. Il vit dans une boîte. Il sort juste pour jouer. Il a pas d'émotion. Il marque. En Italie, on l'appelle le Fat Ronaldo. Même si Ronaldo.
Fat Ronaldo, c'est dur, Fat Ronaldo.
Ouais, parce qu'il est, bah, il est un peu balèze, il a un peu un physique un peu bizarre. Ouais. Et Ronaldo, le phénomène. Ouais. Et il est franchement, c'est un personnage, on n'aurait jamais pensé qu'il avait cet impact-là. Surtout que, après, là, je remets tout ça dans les mains de Julien. Bien sûr. À Aston Villa, il jouait souvent sur la gauche. Ça, c'est une des raisons qu'on dit en Italie pour laquelle il a voulu venir à Roma. Parce qu'on lui a proposé de jouer numéro 9. Et effectivement, c'est incroyable. Alors, il y a un truc dans lequel qu'on regarde jamais dans les numéros 9, on regarde comme il frappe, on regarde comme il contrôle la balle, comme il dribble, mais on regarde jamais quand la balle leur arrive dans les pieds, où ils sont, les démarquages, les fondamentales de démarquage. Malen, c'est un phénomène de démarquage parce qu'il est toujours libre, même quand il n'y a pas d'espace, lui il trouve toujours l'espace où aller recevoir la balle. Et après les contrôles sont phénoménal et la frappe aussi, il est très rapide, très vite.
La question c'est est-ce que la Roma va mettre les 25 millions, c'est ça la question.
Oui, bien sûr, forcément, il y a aucun doute sur ça. Là le doute c'est si la Roma elle va renouveler Dybala ou pas, parce que Dybala il a fait une petite polémique, il a dit moi je sais pas qu'est-ce qui va se passer, et les supporters de la Roma ils ont ont envahi les sociales de la Roma en demandant de le renouveler. Donc c'est plutôt ça le débat. Mais Malen, il n'y a aucun doute qu'ils vont l'acheter. Bon, quoi.
Ça va dépendre après, aussi le qualif pour la Ligue des Champions aussi, concernant Dybala pour la saison prochaine.
Oui, la question c'est aussi si c'est si simple d'avoir un impact énorme comme un météorite dans la Serie A. Combien d'autres joueurs elle pourrait l'avoir?
Bien sûr, bien sûr. Il est passé par le PSV Eindhoven, les Néerlandais, on le verra sur le Mondial, par le Borussia, Polo aussi. Tu l'as connu plus jeune, Daniel Malen.
Je suis pas un fan. Je n'étais pas un fan parce que Daniel a dit quelque chose de très important, c'est son repositionnement en seul attaquant entre guillemets. Je rappelle à Eindhoven, si je me rappelle bien, c'était Roger Schmidt, le coach à l'époque, qui jouait en 4-4-2 et donc il jouait en. Il y avait deux attaquants, mais à Dortmund en fait, on nous l'a vendu comme un attaquant d'aile. Et moi, ce que je lui reprochais, c'est pas le fait de ne pas assez marquer, puisque sa saison en 2024, il en marque 13. Pour un attaquant d'aile, c'est pas mal du tout. C'est le fait qu'il devait avoir beaucoup d'occasions pour en planter un. Et peut-être qu'à la Roma, justement, il est devenu plus efficace devant le but, parce que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, mais qui oubliait parfois ses coéquipiers assez rapidement. Et surtout, il avait une efficacité qui n'était pas redoutable. Donc, je suis un peu surpris, par son repositionnement, parce qu'il doit mesurer 1m75, quelque chose comme ça. C'est pas un grand attaquant, comme on en voit maintenant avec 1m90 et tout ça. Donc, j'ai pas assez vu la Roma pour voir la façon dont il joue. Mais ça me surprend, en tout cas. Enfin, en tout cas, c'est une belle histoire pour la Roma, en tout cas.
Bon, Unai Emery, on voulait plus à son village, Julien. C'est ça, en tout cas, pas sur le côté gauche.
C'est ça, ouais. Et puis aussi, il fallait vendre pour équilibrer un peu les comptes. Et il a jamais réussi à s'imposer. De toute façon, il jouait très peu chez nous. Hein. Je crois qu'il avait débuté que 4 matchs ou 5 matchs en première ligue sur la première partie de saison. Et ce que Polo dit était très juste chez nous aussi. Hein. Je sais que là, il a gagné en efficacité en Serie A, mais chez nous, il avait besoin de plusieurs occasions. Mais tu voyais aussi qu'il y avait un joueur intéressant en dessous, quoi. Il y a des matchs où il était très bon, où il marquait, et d'autres où il passait un peu au travers, où il avait des occasions, ça tournait pas en sa faveur, mais tu sentais qu'il y avait un joueur intéressant quand même, il y avait un potentiel intéressant. Peut-être que finalement, mais on le répète tout le temps, hein, il n'y a pas non plus de mauvais joueurs à ce niveau-là. C'est des mauvais contextes ou des contextes qui ne conviennent pas forcément, mais à un moment, ce genre de joueur-là, c'est quand même très, très, très talentueux.
Oui, juste pour répondre sur la question de l'efficacité, il est pas très très efficace, c'est-à-dire il est pas devenu Lewandowski ou Cristiano Ronaldo de bon temps, mais c'est quand même le deuxième attaquant en Italie à avoir eu le plus de expected goals. Donc la Roma, elle fait un grand volume de jeu, lui il a des bonnes occasions. Et après, en Italie, je pense que les défenses, elles sont pas habituées à un joueur si rapide dans les 1 contre 1 qui joue dans une position axiale, c'est-à-dire effectivement quand il y a un joueur comme ça, il joue aussi en Italie écarté sur un côté. Là, ça fait la différence parce que les gros bagarres de défenseurs italiens, ils vont sur le corps, ils vont en marquage individuel, mais lui, il se défile toujours, il prend l'espace et après tu le rattrapes plus.
Bon, voilà, Daniel.
Il y a les pénalties aussi, ce qui aide un peu. Il y en a eu que 3, je sais, sur les 13 buts, mais bon, c'est vrai que ça aide quand même.
Voilà.
Ah ouais, mais celui-là, par exemple, avec Parme, je t'ai dit, c'est pas un pénalty facile à mettre. Et en plus, il les frappe avec un pas de course avant.
La dernière minute de la soirée, les amis. Alors que le Napoli est maintenant mené 2-1 par Bologne. Il y avait 2-0. Le Napoli a réduit l'écart. C'est la mi-temps. Alors, c'est reste très important, pour la suite et la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Dernière minute de musical de la soirée, évidemment. Elle est attendue. Le choix musical, Edgar Grollo. On envoie la musique, Polo. C'est de la provocation. C'est de provoquer chienne. C'est pas raffiné, quoi.
Mais
ça s'écoute, oui, ça s'écoute. C'est compliqué quand même.
2002.
Ah, mais l'autre, il est en folie à Londres, là, dans sa maison.
Ah oui, tu dansais là-dessus en vacances et tout, Nico. Bien sûr.
Même pas, non. Je suis déçu. Tu m'auras pas là-dessus. Bon. La SketchUp, c'est le nom du groupe. ACLR. La SketchUp, et je cherchais une excuse depuis un petit moment pour jouer cette chanson, et c'est le titre du groupe qui m'intéresse depuis le début, La SketchUp, parce que je pense que vous connaissez cette fameuse expression, Cristiano Ronaldo l'avait utilisée notamment, les buts c'est comme le ketchup, quand ils arrivent ils viennent tous d'un coup. Et ben je vous propose un remix, tu vas me dire ce que t'en penses, Nico. Mon remix, c'est les défaites, c'est comme le ketchup, quand elles arrivent, elles viennent toutes d'un coup, parce que c'est ce qui s'est passé pour l'Espagnol de Barcelone qui a une saison, mais honnêtement, je crois que j'ai jamais vu ça, un tel retournement de situation dans une seule saison. 18
journée consécutive sans gagner pour l'Espagnol Barcelone. L'équipe n'a pas gagné un seul match en 2026. C'est tout simplement la pire série pour commencer une année civile dans l'histoire de la Liga. 6 points sur 54 possibles. Et pour vous rendre compte un petit peu de l'effondrement et à quel point il est total, fin décembre, l'Espagnol était 5e avec 12 points d'avance sur le 7e. 12 points d'avance sur le 7e et maintenant ils se battent pour le maintien, ils ont que 2 points d'avance sur la zone de relégation, c'est incroyable. Je sais pas si tu te souviens Nico, vers la mi-saison justement, oui, on avait fait notre 11 de la mi-saison et nos awards de la mi-saison, on avait mis Manolo Gonzalez le coach comme entraîneur de la mi-saison et aujourd'hui il est évidemment remis en question, il va terminer la saison, mais c'est juste fou ce qui se passe à l'Espagnol et c'est juste incompréhensible d'en arriver jusque là.
Bon, il y a la théorie du ketchup, hein, ce que disait Chirac également, Jacques Chirac, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille aussi. Ça colle avec les défaites de l'Espagnol Barcelone. Dans un instant.
Et sur l'Espagnol, Monchi a été officialisé, il arrive à la direction sportive du club.
Très bien, voilà.
Ancien de Séville et Aston Villa.
Dans un instant, le dernier quart d'heure, avec les drôles de dames, bien sûr, pour vous dire que Tottenham Leeds, pour l'instant, ça fait après 42 minutes 0-0, important. Une victoire de Tottenham pourrait les rapprocher considérablement du maintien en Première Ligue, bien sûr. Et puis, je disais à l'instant, 2-1 pour Bologne sur le terrain du Napoli. Bon, on peut donner le score également. Gros match en Liga, 0-0 entre le Rayo Vallecano, hein, finaliste de la Conference League, et Gérone, 17e. Reste avec nous, la suite est dans le dames dans un instant sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les quatre drôles de dames. Alors, 13 dernières minutes, plusieurs sujets à évoquer avec vous. Tiens, allons en Allemagne tout de suite avec Polo, avec ce suspense, on l'a dit, pour les qualifs en Ligue des Champions, mais aussi pour la 7e place. Mon cher Polo, Francfort, Fribourg ou le FC Augsbourg. 3e victoire en 4 matchs, Polo. Tu l'écris comme ça hein, dans ton mail, c'est comme ça que l'on dit. C'est un formidable Rückrund. Comme ça qu'on dit?
Rückrunde.
Voilà.
Notre retour. Rückrunde. J'ai oublié de dire, était évidemment tout à l'heure pendant la minute, c'était Mozart. Donc,
ouais.
Mozart.
C'est bien le dire, t'as raison, il faut le dire.
On est sur le même level, le choix.
Ah oui, ouais, c'est SketchUp Mozart, c'est voilà, c'est la même famille.
Donc c'était notre Figaro. Et c'est impressionnant parce que moi, je raisonne, je vois. Il y a quelques années, je disais, en gros, vous savez, il y avait un film français, Pour cent briques, t'as plus rien. Il y avait un film français des années 80, si je me rappelle bien, qui s'appelait comme ça. Et en fait, en Allemagne, je disais que pour 100 millions, t'as plus rien, t'as plus d'équipe en Bundesliga pour essayer de faire quelque chose. Pour la première fois de son histoire, Augsbourg n'arrivait pas à franchir cette barre des 100. Ils sont passés directement à près de 150 millions. Ce qui te permet d'avoir des équipes comme Mayence, comme Augsbourg, qui finalement, on se retrouve avec des effectifs qui sont assez impressionnants quand on voit les plus-values qu'ils vont faire sur certains joueurs. Et je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Christian Matsima, qu'on avait reçu dans l'After Allemagne l'année dernière et cette année. La Colonie française, ou des joueurs à la relance, comme Rieder, hein, qui n'avait pas marché.
Massengo, avec Claude Maurice pour les Français.
Claude Maurice, honnêtement, c'est une carrière en dents de scie, mais quand il est en forme.
Bien sûr, on l'a vécu à Nice aussi. Il n'y a pas de fulgurant ce joueur, bien sûr. Ah oui,
et donc, tu peux former comme ça des équipes assez extraordinaires. Et on avait parlé, l'année dernière, rappelle-toi, ils avaient nommé Sandro Wagner, et j'avais dit Sandro Wagner à Augsbourg. C'est comme si tu mets directement une grosse discothèque dans une petite ville de province, quoi. Donc, ça va être un peu délicat, et c'est exactement ce qui s'est passé. Au bout de 3 mois, il a dégagé. Et on a amené Manuel Baum, qui est un ancien de l'équipe, et depuis, donc, la 18e journée, c'est 8 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Ils sont remontés. Mais à tel point qu'il bénéficie aussi de certaines circonstances, puisque tout le monde se félicite de la victoire de la qualification de Fribourg pour la finale d'Europa League, mais on sait très bien que ça va être très compliqué comme contre Aston Villa. Et évidemment, dans le calendrier, tu te disais que Fribourg devait absolument l'emporter à Hambourg, mais ils étaient fatigués, il a fait un très peu de turnover, ils ont perdu finalement 3-2, et avec encore une fois un but de Vuskovic. À mon avis, Julien, je sais que tu peux mettre une caméra dessus l'année prochaine en Première Ligue, il est démentiel, Vuskovic.
Impressionnant.
Rappelle-moi son âge, il a
19 ans.
19 ans, c'est fou.
Vuskovic,
ouais.
Et évidemment, Francfort, avec Reyera, qui, tu m'avais prévenu, Nicolas, a fait son festival médiatique à chaque fois, n'est pas encore sûr de qualifier pour une Coupe d'Europe. Et Augsbourg, finalement, pourrait être celui qui attrape tout. Trouve que cette lutte pour la 7e place, alors c'est super intéressant parce que Fribourg, si Fribourg n'est pas européen, alors qu'ils avaient tout fait pour l'être, Quand vous avez une équipe de vieux comme ça, parce qu'il y a les Griffous, c'est des mecs qui ont été internationaux allemands ou internationaux italiens, etc. Pour relancer un nouveau cycle avec des anciens, c'est pas gagné. Riera, quand on voit ou Francfort, quand on voit les investissements qu'il y a eu sur ces dernières saisons, s'ils ne sont pas en Europe, ça va être compliqué. Et celui qui pourrait tirer tout le bénéfice. Et donc, ce qui est vachement intéressant, je trouve, à Augsbourg, c'est que vous avez des joueurs polyvalents. J'arrivais pas à comprendre ce que faisait Manuel Baum là-bas, donc c'est un 3-4-2-1 des plus simples, mais vous avez des joueurs qui peuvent jouer en deuxième attaquant, qui peuvent jouer latéral droit, vous avez un Reader qui peut jouer milieu offensif, qui peut jouer en numéro 8, vous avez Massengo qui peut jouer en 8, en 6, etc. Vous avez Massima malheureusement qui a été blessé, mais qui est génial en tant que défenseur central. Vous avez Damon quand même qui devrait partir à la Coupe du Monde avec l'équipe d'Allemagne. Vous avez le grec Giannoulis, ça a l'air de rien, mais c'est ces équipes un peu anonymes de nos championnats. Mais quand t'as 150 millions de budget, bah t'as le droit de faire des belles petites équipes.
Tout à fait.
Donc moi, je sais pas ce qui va se passer lors de la 34e journée, mais en tout cas, je suis pas persuadé que Fribourg et Hambourg et Francfort n'explosent pas l'année prochaine s'ils ne sont pas en Europe.
Voilà pour on va suivre la fin de saison, bien sûr, la dernière journée toujours passionnante en Allemagne également, et savoir si Augsbourg va se qualifier pour la Coupe d'Europe. Daniele, jeudi on a la liste de l'équipe de France des Bleus, toujours un grand moment, il y a assez peu de suspense. Toi, t'aimerais entendre le nom d'un joueur qui évolue chez toi à la Juve, parmi les choix de Deschamps, ce serait Pierre Kalulu.
Bah oui, moi je sais qu'il y a un problème dans la place d'arrière droit. Il y a eu on a beaucoup parlé des Zaïre Emery après le match avec Bayern Munich. Et moi, je pensais, mais pourquoi pas Kalulu? En fait, il vient de sa meilleure saison, continuité, avec de belles performances. Je continue à penser que c'est pas un vrai arrière droit. C'est-à-dire, quand il s'agit d'attaquer, il est moins performant, balle au pied, mais il a quand même une présence dans la surface. Il avait même marqué ce week-end contre Lecce. Après, il n'a pas été convalidé pour un hors-jeu de Vlahovic. Mais quand il s'agit de ballon dans l'air avec la tête, ou même de rentrer dans la surface, dans l'espace, il a un bon sens du jeu, un bon sens de l'attaque. Mais c'est surtout un vrai défenseur. Ça permettrait, moi, je pense, à l'équipe de France de défendre à trois, avec les deux centraux et Kalulu qui reste quand la balle, c'est justement la France. Donc ça donne de l'équilibre, ça laisse de la liberté sur le côté gauche à Théo Hernandez d'attaquer avec toujours un équilibre derrière. Et en plus, c'est un joueur sûr, fort dans les duels individuels. Il n'a pas les mêmes bagarres, on va dire, de Upamecano, Saliba, ce genre de joueurs-là. Mais il est assez fort, il est assez costaud, il sait défendre. Une grosse partie de la bonne saison de la Juventus, ça vient de son importance aussi tactique. Spalletti l'a toujours dit. La Juventus, elle joue d'une manière s'il y a Kalulu et d'une autre manière s'il n'y a pas Kalulu, parce qu'il ne peut pas faire les jeux qu'il veut s'il n'a pas un arrière droit comme lui qui peut défendre aussi à côté des défenseurs centrales et transformer la défense à 4 en défense à 3. Donc je pense que Deschamps, c'est un entraîneur qui regarde beaucoup à comment être équilibré pour laisser la liberté offensive aux joueurs qu'ils ont devant. Je pense que ça pourrait être une bonne solution. Et aussi, il pourrait faire une bonne association avec Olise devant lui, parce que avec la balle dans les pieds, il faut se rappeler qu'Aloulou, il a joué avec l'équipe de France l'Espoir.
Il jouait même sélection avec l'équipe de France, quand même, mais bon, c'est peu. Non,
mais... Oui, mais avec les Espoirs, il était capitaine et il jouait même à milieu. Il a même fait les milieux, parce que il a les pieds, quoi. Il a la vision de jeu.
Tout à fait.
Et donc voilà, c'est un joueur intéressant. On n'en parle pas au goût, je trouve.
On verra ça jeudi, si c'est prophétique comme idée, mon cher Daniele. Polo, tiens, il parlait d'Olise, 15e but, hein, en mode de Sega cette saison pour Michael Olise.
Superbe 15e but, ouais. C'est spécial. Alors, un Bayern très sur camp alternatif, malheureusement pour Wolfsburg. Wolfsburg a dû mener 3-0, 3-1 à la mi-temps. Et puis finalement, le Bayern s'est réveillé en seconde période. Peut-être avait-il les jambes lourdes après le match contre le PSG. Pareil, là, Olise, est-ce qu'il sera joueur de l'année? Est-ce que ce sera Harry Kane? Est-ce que ce
qu'est-ce
sera
t'en
un autre?
Qu'est-ce que tu penses, toi? À qui tu donnes ce titre-là, sincèrement? En mode Siga.
Moi j'en ai plein. Moi j'ai les, tu vois, entre Diomande, entre.
Oui, mais.
Il faut aussi.
Diomande,
il faut
voir par rapport. Espoir, quoi, aux révélations, incontestablement.
Ouais, mais
aussi, c'est quoi, c'est Harry Kane, vous lisez, ou Luis Diaz, en fait? C'est ça l'histoire.
Moi, c'est Harry. Non, c'est pas Luis Diaz, Luis Diaz est en dessous quand même. C'est Harry Kane, je pense, là, le jour de l'année.
Ouais.
Mais peut-être que pour le marché, ils vont décider de dire que c'est Olise. Mais je suis, moi, j'attends qu'Olysée élimine à lui tout seul le PSG avant de le mettre sur un piédestal.
Mais Olysée peut gagner meilleur joueur français évoluant à l'étranger dans les trophées UNFP. Là.
Tout à fait. Il est sur place. Hein. Il est à la remise des trophées UNFP. Ouais, Polo, tu veux dire quoi?
Et son but, son 15e but de l'année est exceptionnel.
Ouais, tout à fait.
Maintenant, moi, il y a une évolution extraordinaire par rapport à l'année dernière, déjà.
Moi, j'ai une question pour Polo.
Vas-y. Ouais.
Sur Olysée. Est-ce qu'il y a même la comparaison avec Robben? Ça peut exister? Imagine qu'il. Pas sur. Attends, je sais, il a fait qu'une saison.
C'est bonne ta question. Elle va devenir légitime plus les saisons vont passer et les mois passent également, quoi.
Bah, en fait,
c'est encore un peu prématuré, oui, je pense,
moi,
Polo. Mais...
Moi, ce qui m'a fatigué, c'est dès le début, dès que. En plus, il a sa spéciale, évidemment, qui ressemble beaucoup à celle d'Ariane Robben. Mmh. Moi, je constate quand même que Ribéry et Robben ont fait leur carrière sur 10 ans à Munich. C'est-à-dire que c'est des gens qui, au début, sont arrivés comme ça. Il faut rappeler, Robben était souvent blessé. Il avait sa cheville qui sautait tout le temps. Il était en échec plus ou moins au Real Madrid. Le Bayern l'a récupéré. Ribéry n'était pas aimé au début, et notamment en 2010, lorsqu'il fait sa super saison, où il force un peu son transfert au Real et le Bayern ne veut pas le lâcher. Et ensuite, on sait très bien ce qui s'est passé avec la victoire en 2013, le traumatisme de 2012. Donc ça fait, tout ça fait qu'on a des joueurs qui ont été fantastiques et qui ont marqué l'histoire de la décennie, on va dire, de 2010-2020, et ça, c'est important. Aujourd'hui, Olysée, on l'aime beaucoup parce que il est très sympathique, parce qu'il enquiquine une personne avec les médias, il fait des choses assez extraordinaires. Maintenant, encore une fois, est-ce que c'est Olysée qui ne peut pas, lui tout seul, éliminer le PSG, ou est-ce que c'est le Bayern qui est trop limité tactiquement pour éliminer le PSG? Parce qu'on en a très peu parlé, mais la grande victoire, pour moi, c'est pas PSG qui bat le Bayern Munich. Pour moi, c'est Luis Enrique qui a montré tactiquement.
Voilà, mais tu vois, c'est pour ça que je voulais t'en parler. J'ai posé la question. Même si on parle beaucoup d'arbitrage en Allemagne,
logique.
Il y a une victoire tactique quand même, la façon dont il a éteint Michael Olysée, justement.
En Allemagne, on parle de football complet du côté du PSG par rapport à ce que fait le Bayern. Et j'en reviens à ce que disait Vincent Kompany il y a 2 ans lorsqu'il est arrivé. Il dit, je veux orienter le Bayern. Et j'ai pas de fenouil, mais c'est tout comme la version première ligue. Qu'est-ce que ça veut dire? Une densité physique? Est-ce que c'est une attaque à outrance? Est-ce que c'est des attaquants qui percutent? Est-ce que là, moi, je vois au Bayern beaucoup d'attaquants d'aile, notamment Luis Diaz, évidemment, et Olysée, qui percutent. Mais quand je vois le génie tactique et les variations tactiques du PSG en attaque, en défense, sa façon de contrer, la façon de prendre le ballon,
la palette était beaucoup plus grande. Quoi,
la palette est beaucoup plus large. Et là, Vincent Kompany a encore des progrès à faire, je pense.
Tout à fait. La façon dont Luis Enrique a densifié le côté de Michael Olysee, notamment. Bref, il y a.
Et d'être prêt
c'est un jeune entraîneur, Kompany. Attention, jeune entraîneur, il le sait.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que Bischoff, qui était titulaire contre Wolfsburg, a dit depuis quelques semaines, on avait perdu nos fondamentaux. Il s'est fait reprendre de volée par Vincent Kompany. Il dit il est trop jeune pour analyser une rencontre, etc. Mais il faut être prêt à l'instant T. Or, le Bayern, ça doit être, je crois, sur ses 7 dernières demi-finales, 6 fois, ils se font sortir. Que ce soit le Real, le Barça, qui tu veux. Donc, il y a peut-être aussi un problème de qualité, entre guillemets, mais de l'effectif. Enfin, c'est pas terrible, c'est pas dérisoire d'être en demi-finale, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais si tu veux aller chercher le sacre européen, il faut peut-être se poser les bonnes questions.
Tout à fait, je suis heureux, je voulais qu'on en parle, on parle du Bayern. Je vous envoie également vers le podcast After Angleterre avec un bon invité, mon cher Julien, Jean-Philippe Mateta, qui lui aussi est candidat pour la liste, jeudi. J'y crois pas, même si lui en parle très bien, profil différent, singulier, c'est le seul à offrir ce genre de profil-là. J'en parle parce que Daniel voulait nous parler également de Marcus Thuram, qui revient en forme avec ses 6 buts et 3 passes lors de ses 3 derniers matchs également. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Julien, toi? Mateta a une chance ou pas d'en être?
Ouais, moi je pense qu'il a une chance. Je pense qu'en tout cas, Deschamps regarde. C'est un profil effectivement qui n'y a pas en équipe de France, qui est intéressant sur une période de Coupe du Monde, parce que tu peux le faire entrer en jeu et il t'apporte quelque chose de différent. Tu peux jouer de façon un peu différente et je pense que n'importe quel défenseur central déteste jouer contre un joueur comme Mateta par exemple. Tu as la force physique, la puissance, le jeu dos au but, dans les airs, tout ce qu'on veut, tout ça. Il a tout ça finalement, donc c'était vraiment cool de l'avoir avec nous. On a bien rigolé, en plus c'est un Parisien, donc c'est la famille. JP, un vrai cult hero comme disent les Anglais. Je sais pas où il ira, mais je lui souhaite vraiment le meilleur la saison prochaine, un gros club ou quoi que ce soit. Mais j'espère aussi, bien sûr, que jeudi il fera partie de la liste. Mais je pense vraiment qu'un profil comme ça, plutôt que d'avoir par exemple un Thuram et un Kolo Muani qui se ressemblent un petit peu quand même, prends Thuram et prends Mateta, quelque chose de différent et qui pourra t'apporter pendant la compétition.
Moi, je vous propose ici.
S'il est dans la liste, Julien, tu lui envoies un message ou pas?
Ah oui, bien sûr.
Tu lui envoies quoi? Tu sais déjà ou pas, non?
Juste un petit bravo frérot, félicitations.
Voilà, très
bien. Encore, tu vois, on se voit aux États-Unis.
C'est faire.
Daniel, excuse-moi.
Bah, au-delà de Marco Storan, moi j'ai une proposition, ça ne me regarde pas, c'est pas mon championnat, mais Elite Junior Kobe.
Ah oui, ouais, oui.
Ah, c'est un peu tôt.
On va attendre un petit peu, mon cher Daniel Eklund.
Non, mais c'est un vrai numéro 9. Il n'y a pas beaucoup de vrais numéro 9.
J'aime bien tes choix romantiques, Daniel.
Son heure viendra, t'inquiète pas, il y a tellement de talentueux.
Je laisse finir ton fenouil et préparer la liste des bleus, hein, puisque tu n'as pas de liste à faire pour la nationale.
Ah, c'est des championnats pas de fantasy, il n'y a qu'à m'appeler.
Ouais, exactement.
Bon, mais je cherche l'Italie dans l'album Panini, mais je trouve pas, hein, Daniel. Tu devrais rajouter à la fin, tu sais. Tu rajoutes.
Oh, l'album Panini. Oh, il me faut tenir la filière sauricain.
Mais tu sais, l'Italie, c'est
inadmissible.
Inadmissible, c'est honteux, ça.
C'est une honte.
L'Italie, elle joue pas des coupes du monde.
Ce mec est à brûler en place publique.
Ah ouais, carrément, on va finir là-dessus.
Ah ouais.
Bon, ok.
Infantino, le mal qu'il fait au foot, quoi. Non, mais sérieux.
C'est pas le seul. Merci Polo, merci Edgar, merci Daniele, merci Julien. L'After, tout de suite, en direct de Valence. Bonne soirée à tous sur RMC.
RMC, jusqu'à 22h, Génération After.